et à tous et bienvenue sur la radio et des élèves de l'école à Bataillé et du collège Louis Pasteur.
Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une Sassanée qui nous avons passé une bonne partie de l'année scolaire.
Mais Kaïs, qui est une Sassanée ?
Eh bien Sabrina, une Sassanée est un écrivain pour la jeunesse, mais c'est aussi un slameur, un comédien, un chanteur et un poète.
On peut donc dire qu'une Sassanée est un artiste complet. Et aujourd'hui, nous allons nous plonger dans son univers.
Oui, et pour commencer, nous allons écouter une première lecture avec Ikram, Safa et Ismaël.
Après avoir fait l'appel, la prof présente le monsieur qui l'accompagne. Il me trompait, même si le regard du mec est fine, il n'est pas inspecteur. En même temps, j'aurais dû m'en douter. Ça ne court pas les rues, les inspecteurs noirs. Les noirs, c'est soit des voleurs, soit des balances. Je sais de quoi je parle, j'ai vu pas mal de films. Enfin bref, d'après Madame Aslanian, il est écrivain et comédien. Rien que ça, je suis un peu sceptique.
Madame, les écrivains et les dinosaures, ils sont tous morts. C'est pour ça qu'on les étudie à l'école, même si c'est barbant. Alors, il sort d'où celui-là ?
Tu t'appelles comment ?
Me demande l'intervenant.
Erwan, monsieur.
Enchanté, moi je m'appelle Insa Sané. Tu as raison, Erwan, c'est louche, un écrivain vivant, et encore plus étrange, un écrivain beau gosse avec un sourire d'acteur.
Le monde explose de rire.
Ok, vous parlez bien, mais qu'est-ce qui prouve que vous écrivez des livres ?
Merci les amis pour cette lecture. Poursuivons notre voyage avec ce portrait de l'artiste réalisé par Nolan et Elisa.
Insa Sané est né en 1974. À Dakar, au Sénégal, il a grandi à Sarcelles, au nord de Paris. Il s'est rapidement tourné vers l'art. C'est un artiste complet. Il est slameur, scénariste, rappeur, comédien et écrivain. Mais ses parents voulaient qu'il devienne médecin. Il a joué dans le film Voisin-voisine, pour lequel il tient le rôle de Moussa Diop. Son œuvre littéraire s'inspire de son enfance et se nourrit de ses nombreuses rencontres avec des collégiens, qui ont fait naître l'idée de son roman, La Cité des Argonautes. Il a aussi écrit plusieurs romans, parmi lesquels Daddy est mort, Du plomb dans le crâne et Gueule de bois.
Merci Nolan pour cette biographie très intéressante. Je crois que Sabrina, que toi aussi tu nous as préparé une lecture. Et c'est donc le moment de l'écouter.
Dans mon quartier, il y a un air joué à la flûte, un air chargé de fausses notes et de folie. Ceux qui ne sont pas du coin se demandent où provenir cette complainte. Ceux d'ici savent qu'une fenêtre du 10e étage de la tour sud est ouverte. Ismaël se tient debout et donne son concert. C'est un rituel qu'il exécute tous les soirs à la même heure, 19h. Les enfants comprennent qu'il est temps de rentrer. Les moins jeunes abandonnent les murs qu'ils ont tenus toute la journée pour aller se restaurer dans le centre-ville. Un kebab, des tacos, une pizza. Les parents ont du PMU ou du travail. Enfin, ceux qui ont la chance, comme les miens, d'en avoir un de boulot.
Quel talent cette Sabrina! Passons maintenant à la page critique avec Ahmed qui s'est penché sur l'un des livres d'Insa Sané. Citer les Argonautes, le tome 1, des mensonges plus grands que le collège.
C'est un roman édité chez Milan qui raconte l'histoire des 5 collégiens. Maya, Mehdi, Bounegueux, Erwan. Ils découvrent le collège et le harcèlement par un élève plus âgé. Les enfants n'ont pas une bonne réaction parce qu'ils ont peur de lui. Ils se disent qu'il va les traiter de balance. Ils décident de déclencher une bagarre en faisant courir une rumeur. Plus tard, ils accusent à tort Ismaël d'avoir provoqué un accident. Grâce à l'intervenant, un comédien africain, ils font des progrès en lecture théâtralisée. Ils apprennent à respirer et ils prennent confiance en eux. À la fin de l'année, ils ont bien changé et compris qu'on ne règle rien avec des mensonges plus grands que le collège. J'ai bien aimé ce roman. Il est différent parce que chaque chapitre porte le prénom d'un collégien. Celui qui raconte l'histoire et donne son point de vue. Et dernière chose, il y a un QR code en troisième et quatrième de couverture pour écouter la bande-son du livre. 5 chansons inédites d'Insasane. Je vous recommande cette lecture à découvrir au CDI.
Merci Ahmed de nous avoir partagé ta critique sur ce roman. Nous allons justement en écouter un passage lu par Elisa et Nolan.
Le vide, ce n'est pas l'espace. Le vide, ce n'est pas l'air. Et encore moins le rien. Le vide, c'est l'absence. L'absence est le vide.
Le vide est encore plus absent quand il est tout proche. Il reste de longues heures sur le canapé. Le regard vide. L'enfant préfère quand il s'enferme dans sa chambre. Sinon, le vide reste silencieux, comme un secret impénétrable. Le vide est muet. Il est mystérieux. Angoissant, le vide a sûrement des vies cachées. Et s'il arrive à l'enfant d'espionner, c'est uniquement parce qu'il voudrait percer à jour le vide. Peut-être que le vide en veut à l'enfant de s'être choisi un nouveau prénom, qu'il a honte de l'enfant.
Le vide, ce n'est pas l'espace. Le vide, ce n'est pas l'air. Et encore moins le rien. Le vide, c'est l'absence. L'absence, c'est le vide.
Merci les amis pour cette nouvelle lecture. Il est temps maintenant de se tourner vers l'œuvre musicale d'Insasane. Les écoliers et le collège. Les collégiens ont travaillé ensemble pour appréhender les émotions par le corps et par les mots. Vous allez découvrir, chers auditeurs et auditrices, leurs textes de slam inspirés des chansons de la bande-son du roman Cité les Argonautes intitulé L'enfancé et Être ensemble.
Une tortue avec une large carapace lisse avance très lentement sur une place de sable. Je peux contrôler ma peur de la mort, même si parfois j'aimerais mettre de côté tout ce vert, me baigner dans le bleu outre-mer, sentir la chaleur du soleil, construire des châteaux de sable avec des coquillages. Une vermine effrayante gratte avec empressement comme dans une friche urbaine. Je peux exprimer mon dégoût, même si parfois j'aimerais être joyeux. Sentir le vert des feuilles, pêcher et jouer comme avant, toucher l'eau à l'extérieur de la barque d'où je suis.
Un chien aux oreilles baissées et poils rêches saute vivement dans la chambre. Je peux exprimer ma tristesse, même si parfois j'aimerais tourner la page et tout peindre en jaune citron. Rechercher un soutien, parler de mes soucis, m'évader du stress.
Une mignonne chienne bouge incessamment dans la chambre avec des jappements. Je peux exprimer ma joie et j'aimerais tout colorier en bleu ciel. Peinture lurée l'arc-en-ciel, rehausser le beau temps, embellir le paysage.
Reviens à toi, regarde les animaux qui vivent en toi, ne t'éteins pas, écoute les émotions qui croissent, rugissent et ronronnent. N'oublie pas de teindre le monde de ta couleur, la vie c'est juste écrire.
Un loup enragé se rue hors du placard. Je peux faire face à ma peur, même si parfois j'aimerais nager comme un poisson doré. Affirmer ma liberté, gagner en sécurité et savourer ma tranquillité.
Une grenouille verte répugnante se jette dans l'eau croupie et l'avale. Je peux vomir mon dégoût, même si parfois j'aimerais me sentir à l'aise. Boire une tisane de mauve de Mauritanie, m'allonger dans la violette odorante, enfiler ma bague améthyste.
Un poisson solitaire nage silencieusement dans le ruisseau sous la pleine lune. Je peux me promener ma tristesse, même si parfois j'aimerais devenir rouge coussinet, m'échapper dans les coquelicots, dormir dans les herbes rares et rêver de m'envoler sur Mars.
Une carpe-côte tachetée se déplace gaiement dans un bassin d'eau douce. Je peux exprimer ma joie et j'aimerais dessiner le ciel orange, repeindre une citrouille, croquer une clémentine, aiguiser un pamplemousse.
Reviens à toi, regarde les animaux qui vivent en toi. Ne t'éteins pas, écoute les émotions qui croissent, rugissent et ronronnent. N'oublie pas de teindre le monde de ta couleur. La vie, c'est juste écrire.
Le chien à trois têtes attend au bord du feu noir brouillonnant. Je peux me sentir rassuré et j'aimerais colorer ambiant, murmurer quand une maman chuchoter quand des fleurs au vent se tait quand des fleurs au champ.
Un tigre nerveux bondit brusque en moi, je peux gérer ma colère, même si parfois j'aimerais virer au bleu marbré, plonger dans la piscine, faire une lune, me reposer dans le jacuzzi. Un chat abandonné, fragile, marche tristement sur le trottoir. Je peux canaliser ma tristesse, même si parfois j'aimerais voir la vie en fuchsia. Descendre dans mon jardin pour y cueillir des marguerites. Arroser l'hortensia et le laurier rose. Contempler le coucher du soleil avec bonheur.
Un grand oiseau s'envole rapidement dans le ciel. Je peux exprimer ma joie et j'aimerais repeindre la ville en ocre. Rapporter la terre rouge des montagnes, enduire les murs de maisons, découvrir les randonnées à Rousillon et dans les environs.
Reviens à toi, rugis, quitte à prendre feu. Ne t'éteins pas, écoute les émotions qui croissent, rugissent et ronronnent. N'oublie pas d'éteindre le monde de ta couleur. La vie, c'est juste écrire.
L'horrible koala arrive sournoisement dans la forêt. Je peux dormir avec Bumper, même si j'aimerais me réveiller avec les yeux jaunes, parler beaucoup et faire des blagues, travailler, courir, jouer au foot, jouer à Action Vérité et enfin me reposer.
Une chaton avec des écailles marche rapidement dans la forêt. Parfois, j'aimerais nager de ma tristesse. Parfois, j'aimerais devenir joyeuse en jaune. J'aime travailler avec mes parents en restaurant, cuire des fleurs, cuic-cuic. Le poussin, il chante. Parfois, le soleil tape.
Un léopard à taille jaune marche discrètement dans la forêt. Je peux danser l'amour et parfois j'aimerais rester avec ce bleu foncé. Observer les poissons et les papillons courir à toute vitesse. Admirer le ciel bleu nu en dévorant des myrtilles.
Le cheval noir promène
sauvagement
dans
la
forêt
de sapin.
Je peux danser
ma
joie
et parfois j'aime
fêter
la
ville
en
rose.
Manger
j'ai
une barbe à
papa.
Jouer
avec
des
ballons roses.
Nager dans la
mer.
Goûter des
crêpes
au Nutella.
De la
dévorer
des
gaufres. Avec
mes rêves.
Reviens à toi, regarde les animaux qui vivent en toi. Ne t'éteins pas, écoute les émotions qui croissent, rugissent et ronronnent. N'oublie pas de teindre le monde de ta couleur. La vie, c'est juste écrire.
Un tigre féroce attaque violemment dans le quartier. Je peux frapper ma colère, même si parfois je voudrais faire la fête en jaune foncé, conduire ma moto sur la route, manger des frites au McDo, porter une bague Mercedes, partir en jet ski la nuit.
Un cheval à oreille de chat, des ailes et des écailles joue dans la maison. Je peux danser ma joie et parfois j'aimerais dessiner un chat violet, cuisiner dans la cuisine, cueillir des iris, caresser des chatons mignons.
La licorne blanche galope joyeusement à la ferme. Je sautais dans ma joie et parfois j'aimerais rester la couleur jaune. Faire la fête, sauter dans la mer, plonger dans l'eau, caresser mes cochonnets. Joue au dinosaure.
Le chat Dabi saute discrètement à la plage. Je peux m'amuser avec ma joie et parfois j'aimerais rester de couleur jaune. Me baigner dans la piscine, jouer avec mes copines, caresser un chat, sentir l'odeur du chocolat.
Reviens à toi, regarde les animaux qui vivent en toi. Ne t'éteins pas, écoute les émotions qui croissent, rugissent et ronronnent. N'oublie pas de teindre le monde de ta couleur. La vie, c'est juste écrire.
Joli travail et bravo à toutes et à tous pour ce beau texte commun. Nous allons bientôt vous laisser découvrir le grand entretien exclusif que nous avons réalisé avec Nissa Sané. Mais avant, je vais vous lire un dernier extrait de Cité les Argonautes accompagné d'Aaron. Papa m'a toujours dit que pour devenir quelqu'un, il fallait que je travaille à l'école. Alors c'était ma ligne de conduite. Faire mes devoirs, réviser mes leçons, obtenir d'excellentes notes. Pour moi, devenir quelqu'un, c'était avoir un métier comme celui que maman exerçait désormais. Mais je venais d'apprendre qu'être quelqu'un, ce n'était pas forcément porter le tailleur des gens sérieux, ou la cravate de ceux qui n'ont pas de temps à perdre, ou un agenda plus chargé qu'un sapin de Noël. Je le savais, parce que ici et maintenant, je n'étais personne. Avant d'être le nouveau, j'avais une vie. J'étais quelqu'un avant. Mon nom était aussi commun qu'un bonjour. Avant, on ne s'associait pas de savoir où j'étais né, d'où je venais, qui étaient mes parents et les parents de mes parents. Pour ne pas être personne, il me suffisait de rester simplement moi. Avant, je n'avais pas besoin de virer le matériel d'un autre pour me faire un nid. Mais ça, c'était avant.
Mes parents avaient pressé le bouton « reset » de ma vie avant et du jour au lendemain, j'avais fait mes cartons. Je n'étais même pas allé au bout de mon aventure, qu'il fallait déjà que je reprenne le jeu depuis le début. Sérieux ? J'avais remporté des missions, franchi des mondes, passé des épreuves, remporté des trophées plus précieux qu'une dent de lait. Et surtout, j'avais créé des alliances. Parce que la vie, c'est d'abord être ensemble, comme papa l'a écrit dans une de ses chansons. Ah oui, mon père est chanteur.
Merci Kaïs et Aaron. C'est la fin de cette première partie. Place maintenant à notre grand entretien exclusif avec Insa Sané. Bonne écoute et à bientôt pour une nouvelle émission littéraire. Ciao!
Bonjour Insa Sané, nous allons tout d'abord vous poser des questions sur votre vie. Ensuite, nous parlerons de votre métier, du slam et de vos livres.
Bonjour.
Bonjour.
Où habitez-vous, en France ou au Sénégal ?
Alors, je suis né au Sénégal. J'ai habité très longtemps en France, en région parisienne. Et depuis le mois de juin, avec mes enfants, je suis retourné m'installer au Sénégal, à Sali, à 2 heures à peu près en voiture de Dakar.
Est-ce que vous trouvez que Paris, c'est une jolie ville ?
Je ne sais pas si je suis bien placé pour parler de Paris puisque je suis parisien d'adoption. Moi, je n'aime pas Paris, vraiment. Je n'aime pas la ville parisienne, le Paris intramuros. Je préfère la banlieue, je préfère tout ce qui est autour de Paris. J'aime l'énergie, les jeunes qui vivent autour de Paris, la culture qui est autour de Paris. Mais je trouve que Paris, à l'intérieur du périphérique, c'est une espèce de musée où les vieux vont regarder des vieilles choses et parlent du passé.
Ok. Est-ce que c'est un peu dangereux, la vie dans le quartier ?
La vie, elle est toujours dangereuse. Le simple fait de respirer, c'est dangereux. Marcher, c'est dangereux. Aller à la piscine, c'est dangereux. C'est pas plus dangereux qu'ailleurs. On s'y fait beaucoup d'amis. Je sais qu'on, dans les médias, on parle beaucoup de choses, de délinquance dans les banlieues, mais c'est tellement rare qu'on en fait des faits d'actualité. C'est comme quand un avion s'écrase. On en parle pendant des semaines et des semaines. Quand il y a des accidents de voiture, on en parle rarement parce que c'est beaucoup plus courant qu'il y ait des accidents de voiture que des accidents d'avion. Donc la banlieue, c'est pas plus dangereux qu'ailleurs. C'est un endroit où on apprend à se défendre et on apprend à avoir faim. Avoir faim pour aller loin, pour devenir quelqu'un et pour avoir des choses intéressantes à raconter au monde.
Quand vous étiez au collège, est-ce que vous avez eu des problèmes de harcèlement ?
Alors, peut-être qu'on est une génération un peu particulière, mais quand j'étais au collège, non, j'ai jamais subi le harcèlement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne se moquait pas les uns des autres. Bien sûr, on était les premiers à se moquer de nous-mêmes d'abord et des autres ensuite. Mais il faut apprendre à rire avec les autres. Mais pour que ce soit drôle, pour que ce soit de l'humour, il faut que ce soit drôle pour nous aussi. Quand quelqu'un se rit de nous, il faut qu'on apprenne à rire avec lui. Si c'est vraiment pas drôle, là oui, c'est de la méchanceté. Mais le harcèlement, c'est pas du tout ce que j'ai pu vivre au collège. J'ai plutôt vécu la solidarité des jeunes qui étaient ensemble. Mais je pense qu'on se moquait plus les uns des autres qu'aujourd'hui. Peut-être qu'on avait plus d'humour, ou peut-être qu'on avait plus d'autodérision, peut-être aussi qu'on se faisait plus confiance, et comme on était vraiment copains, on n'avait pas peur que notre copain se moque de nous, et ça nous faisait rien du tout. Mais en même temps, se dire, je ne peux pas trop discuter du sentiment de harcèlement, puisque je n'ai jamais été vraiment harcelé. Je peux comprendre les tournures, je peux comprendre le phénomène quand tu as plusieurs personnes qui sont méchantes avec toi, qui disent que des choses atroces, ça je peux l'entendre et le signaler comme harcèlement. Mais en même temps, ce que j'aimerais, c'est aussi que se sentir fort par rapport aux gens, par rapport aux groupes qui essayent de nous harceler. J'ai pas subi le harcèlement au collège, mais j'ai subi du harcèlement toute ma vie. Être noir, par exemple, quand on vit en France, on est harcelé. On est harcelé à la télévision. Quand on allume la télévision et que les gens parlent mal des noirs, tu te sens harcelé. Quand tu dois présenter tes papiers, ta pièce d'identité toute la journée, tu te sens harcelé. Mais à toi d'être fort, à toi de d'avoir du caractère et de savoir répondre à ce genre de harcèlement, et à toi de t'imposer. À toi de t'imposer. Donc il y a plusieurs formes de harcèlement dans la société, celle que vous connaissez sans doute au collège. Moi je l'ai pas vécu, mais par contre j'ai vécu un harcèlement sociétal et je la vis encore aujourd'hui. Je me sens agressé quand je lis les journaux, quand j'écoute la radio, quand je regarde les journaux télévisés. Eh ben, je me sens harcelé, je me sens persécuté, mais c'est pas ce que j'ai envie d'offrir à mes enfants. Et mes enfants, je leur apprends à être forts et à passer au-delà des méchancetés qu'on peut entendre à la télévision.
Dans une émission de télévision, vous avez parlé d'intégration. Est-ce que vous vous êtes senti étrange jusqu'au jour où vous avez rencontré une amoureuse et fondé une famille ?
Et alors, est-ce que je me suis senti étranger avant de rencontrer la mère de mes enfants et fonder une famille? Alors d'abord, pour ce qui est de l'intégration, c'est une stupidité, cette idée d'intégration. Ce sont ceux qui utilisent ces mots, c'est déjà ceux qui n'ont pas envie que tu sois forcément là avec eux. Si jamais t'es dehors, t'as faim, et que tu passes à côté de ma maison, et que la maison elle est ouverte, et qu'on va passer à table, mais c'est pas de t'intégrer, de te dire oui, viens manger avec nous. C'est juste la nature des choses. C'est considérer que t'es un humain, et que tout humain mange, et comme je suis en train de manger, je t'invite à manger avec moi. Ensuite, toi, tu viens à ma table et tu vas découvrir mes plats, les plats que je fais, qui ne sont peut-être pas les plats de chez toi. Mais soit tu vas aimer, soit tu ne vas pas aimer, mais tu vas, par politesse, tu vas goûter. Et moi, je vais essayer de te connaître, savoir ce que tu aimes manger, ce que tu n'aimes pas manger. Je ne vais pas te forcer à manger des choses que tu n'aimes pas manger, qui sont trop nouveaux pour toi. Mais ça ne va pas nous empêcher de nous lier d'amitié et de vivre ensemble. Donc, l'idée que quelqu'un vienne d'ailleurs et doive s'intégrer, donc doit faire un effort intellectuel, un effort culturel pour être dans ta maison et manger à ta table, c'est de la stupidité. Ça veut dire que toi, en tant que personne, tu es un monstre. Parce que naturellement, tu vois quelqu'un qui meurt de faim, tu lui offres à manger. Et si tu vois quelqu'un qui a besoin de se reposer, tu lui offres ton canapé, ta chaise, ton lit. Et c'est comme ça qu'on doit fonctionner. On n'est pas des animaux. Donc, parler d'intégration, ce sont ces mêmes animaux qui veulent qu'on soit comme eux et qui pensent qu'on est tous différents. Non, on a tous envie de manger, on a tous envie de boire, de jouer, de rêver, de lire des livres, d'apprendre les uns des autres. Et c'est naturellement qu'on doit apprendre à vivre les uns avec les autres, sans qu'il y ait d'efforts à fournir. Ensuite, étranger, pendant longtemps, je me suis dit que ce pays, la France, n'allait pas être le mien, que jamais je pourrais grandir ici, être heureux en France, pour plein de raisons. Et puis finalement, oui, tu l'as dit, mais d'abord, je me suis fait des copains et des copines. Et en ayant des copains et des copines, je me suis senti un peu plus à ma place ici. Pas intégré, juste à ma place, accepté. J'ai eu de la connivence avec mes amis. Et puis, je me suis inventé des mondes avec mes amis. Et puis, on a rêvé ensemble du futur. Qu'est-ce qu'on va faire quand on sera grand? Est-ce qu'on sera toujours amis quand on sera grand? Ça, c'est déjà, comment dirais-je, comment déjà tu acceptes d'être dans un pays? C'est grâce d'abord à tes amis. Ensuite, effectivement, quand tu as une amoureuse, bah oui, là, tu te sens forcément appartenir à ce pays. Et d'autant plus quand tu as des enfants, tes enfants, ils t'ancrent dans un territoire, dans un pays. À l'intérieur même de la France, il faut comprendre qu'il y a plusieurs régions. Et les gens ne vivent pas tous de la même manière en Bretagne, dans le Languedoc, en Alsace, etc. Ils n'ont pas forcément tous les mêmes habitudes. Mais quand tu as des enfants et que tu viens de Bretagne et que tu t'installes à Paris, tu apprends à devenir parisien à cause de tes enfants. Et tu apprends à rester parisien à cause de tes enfants. On a... les aléas du direct, c'est comme ça. Donc, pour te répondre, non, je me sens à la fois français dans les valeurs positives de la France, mais je me sens étranger dans tout ce qui est négatif, dans tout ce qui est l'exclusion, dans le racisme, je me sens étranger à ça, dans le fait de la domination des forts sur les faibles, non, je suis étranger à ça.
Qu'est-ce que le slam ?
Ah, c'est dur d'en faire une définition. C'est justement pour ça que j'ai voulu faire du slam, parce que c'est dur à expliquer. Le slam, c'est d'abord comment on casse les codes. Les codes du rap, d'abord, parce que le slam arrive juste après le rap qui devenait de plus en plus commercial. Et il a fallu une rupture avec le milieu du rap. Donc, c'est d'abord comment on a cassé les codes du slam pour retourner vers l'interprétation et vers une écriture plus basique.
Est-ce que le théâtre vous a formé au slam ?
Oui. Oui et non, puisque en fait j'ai commencé le slam avant de faire du théâtre, mais comme j'étais friand de théâtre et d'interprétation, j'ai pu essayer d'écrire des textes qui puissent être interprétés comme sur une scène de théâtre, écrire des slams qui soient visuels. Et ensuite, c'est grâce aussi à ça que j'ai pu après faire du théâtre. J'ai été repéré grâce à des scènes slam par des metteurs en scène.
Est-ce qu'en lisant un de vos romans, nous devons faire du slam ?
Déjà, j'espère qu'en lisant mes romans, vous avez envie de lire à haute voix. C'est déjà un début. Le début du slam, c'est interpréter des textes à haute voix. Donc, et moi, j'essaye d'écrire dans mes romans, dans mes histoires, des passages où on peut le lire et on peut le jouer à plusieurs et on peut se le raconter comme on raconte des scènes de très bons films.
Qui sont les messieurs qui chantent avec vous dans le sol slam ? Et qui sont les enfants qui chantent dans la bande son de Cité des Argonautes?
Alors, dans le Soul Slam Band, il y a Carl The Voice qui est malheureusement nous a quittés et qui est un chanteur incroyable, une voix incroyable. Et puis, il y a mon guitariste Cab, il y avait Kamel Hadji qui était à la basse qui chantait aussi. Et puis, on était assez nombreux dans le groupe. Et dans Cité les Argonautes, les enfants que vous entendez, c'est mes deux enfants, dirais-je. Et Séni qui chantent, qui font mes refrains notamment.
Avez-vous participé à des compétitions de slam ?
Je déteste les compétitions, mais oui, quand j'étais un peu plus jeune, à la fin des années 90, il y avait c'était pas tout à fait des compétitions, mais c'était des endroits où il y avait plusieurs slameurs qui montraient leur art. Et j'en ai fait plusieurs, mais jamais pour essayer de vouloir montrer que j'étais le meilleur et le number one.
Quel est le style de musique qui vous inspire ?
Toutes les musiques. J'écoute de tout, j'aime tout. J'aime particulièrement, bien entendu, les morceaux nostalgiques. J'aime le piano et j'aime la guitare. Donc, c'est des instruments qui plus facilement vont me donner envie d'écouter la chanson.
Insa Sané, vous êtes slameur, comédien, scénariste, romancier. Parlez-nous de votre parcours professionnel.
Alors, parcours professionnel, ma mère dira que artiste, c'est pas un métier. Donc, il n'y a pas vraiment d'études pour apprendre à être un artiste. En fait, c'est sa singularité qu'il faut qu'on aille piocher dans notre différence, qu'on ait un regard sur le monde, mais un regard sur nous-mêmes aussi. Et être capable de peindre et de raconter le monde. Donc, si je veux parler de parcours professionnel, je dirais j'ai rencontré beaucoup de gens. Et beaucoup de gens qui m'ont nourri, beaucoup de gens qui m'ont donné envie de raconter leurs histoires, mon histoire et de raconter des aventures.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Je ne l'ai pas choisi. Ça nous tombe dessus. On ne choisit pas d'être un artiste. En fait, j'ai aimé lire et ensuite j'ai aimé écrire. Et à force d'écrire, les gens m'ont dit « t'écris super bien, tu peux nous écrire une chanson ». J'ai écrit une chanson et ça m'a plu, donc j'en ai écrit une pour moi et puis une deuxième. Après, j'ai fait des concerts et j'ai aimé ça, donc j'ai fait de plus en plus de concerts. Et avant que je réalise, c'était devenu mon métier.
Pourriez-vous chanter pour nous ?
Ok, alors... On m'appelle Blanche-Neige, Bamboula, va au diable. Ramasse tes gris-gris, ta magie, tes sortilèges. C'est vrai, je suis pas un grand blond à rien. Pour eux, je suis un macaque, un bon à rien. Ils se demandent qu'est-ce que tu brodes avec la noirode. Pourquoi ce noir rôde autour de tes yeux d'émeraude. Qu'ils aillent se faire foutre et leur terme. J'ai la couleur des pupilles gravées sur l'épiderme. Ils me disent, tu l'aimes? Ça a l'air louche. Putain, regarde-toi, t'es qu'un carlouche. Alors lâche-la ou tu finiras sous le marbre. L'homme descend du singe, alors descend ton arbre. Ils veulent pas de ce que je suis et que tu sois avec ce que je suis. Toi, est-ce que tu me suis juste pour ce que je suis? Ils veulent pas de ce que je suis et que tu sois avec ce que je suis. Moi, je suis ce que je suis et tout ça me poursuit.
Bien joué.
Ouais.
Est-ce que vous avez toujours fait ce métier ?
Non, j'ai pas toujours fait ce métier. J'ai commencé très tôt quand j'étais au lycée. Et puis après, j'ai fait des études d'économie. Et ensuite, pendant que j'étais à la fac, je travaillais comme vendeur à Castorama. Ensuite, ça a commencé à marcher assez bien pour moi. Donc, j'ai commencé la musique et le théâtre et le cinéma. Et puis un beau jour, j'en ai eu marre du milieu. Donc, je suis parti m'installer au Sénégal. Et j'ai travaillé dans le tourisme, dans la restauration, mais pas tout à fait la restauration rapide, on va dire. Et puis ensuite, je suis rentré et j'avais mon manuscrit en main, mais j'étais bien dans ma petite vie. Donc, je suis redevenu vendeur à Bricot Dépôt. Et puis, comme ma carrière décollait, c'était très difficile maintenant de pouvoir faire les deux, être à la fois dans un boulot où on a des horaires et être dans un boulot où il n'y a jamais d'horaire. Donc, j'ai dû arrêter mon travail avec des horaires pour me consacrer à mon travail où il n'y a pas d'horaire.
Avez-vous eu envie de faire un autre métier avant du coup le travail que vous faites maintenant ?
Bah oui, je voulais être pilote, moi. Pilote d'avion, avec une belle fly jacket et faire craquer les filles.
Est-ce que vous avez déjà fait du doublage ?
Non, jamais de doublage. Jamais. Okay. Peut-être un jour, on verra.
Faudrait le faire un jour.
J'espère.
Nous allons maintenant parler de littérature. Quel est le livre qui vous a le plus marqué quand vous étiez collégien ?
Au collège ? Il y en a pas mal. Au collège, j'ai beaucoup aimé Chronique martienne de Ray Bradbury. J'ai aimé également... qu'est-ce que j'ai aimé aussi ? J'ai aimé... à l'époque, j'y avais Le Parfum. Alors, je sais que c'est pas un livre qu'on lit au collège, mais je l'avais lu quand même. Et j'avais beaucoup aimé Le Parfum. J'avais lu également, relu, mais cette fois-ci je comprenais mieux ce que je lisais, c'était Les Châtiments de Victor Hugo, parce que la première fois que je l'avais lu, j'avais que 8 ans, donc je comprenais pas tout, et là je comprenais un peu mieux. C'est ce qui me vient à l'esprit quand j'étais au collège, mais j'avais lu aussi d'autres bouquins, mais j'ai dû les oublier.
Parmi vos livres, quel est votre préféré ?
Le mien, le préféré, ça se fait pas pour les autres, hein, mais je suis obligé de balancer. C'est Dupont dans le crâne, mon livre préféré. En tout cas, celui que j'ai le plus aimé écrire.
Quel est le sujet du prochain livre que vous avez à écrire ?
Que je vais écrire. Le prochain livre, ça parle de rap. Et ça, on revient sur le monde du rap des années 90, avec un studio d'enregistrement qui était mythique, qui était en région parisienne, dans Paris. Et c'est l'histoire d'une chanteuse qui veut se lancer dans le monde du rap.
Est-ce que vos livres sont aussi en braille ?
En braille ? Je crois pas. Je crois pas qu'il y en... Je peux pas être certain parce que c'est pas nous qui les adaptons. Mais je suis pas certain qu'il y en ait en braille.
Merci Insa Sané d'avoir répondu à toutes nos questions. Pour finir, je laisse la parole à Imran.
Est-ce que vous pouvez nous dédicacer un roman ?
Bah oui, je vais le faire avec grand plaisir et merci pour toutes vos questions. Merci de m'avoir accueilli dans votre classe.
Est-ce que qu'on peut faire une photo de groupe ?
Avec plaisir.
Merci.
Merci. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Merci.